Chapitre 6. Le pompiste fou. Nous conformant aux indications de Globo, nous avons continué à descendre dans les profondeurs de la caverne. C'est ainsi que nous sommes arrivés en vue d'une étrange station-service aux allures de Châteaufort. Une immense pompe se dressait au bord de la route. Un camion-citerne, tout rouillé et couvert de poussière, semblait attendre là depuis des siècles. Un panneau bosselé par les éboulements proclamait « Garage Zongolo, carburant magique, la maison ne fait pas crédit. »« Y a quelqu'un ?» a crié Poppy. Une atmosphère d'abandon pesait sur les lieux. Des gouttes d'or liquide s'échappaient du tuyau de la pompe en faisant ploc, ploc, ploc. « Qui êtes-vous ? » a soudain rugi une voix. « Que faites-vous ici ?» Un colosse dans le genre de Globo a surgi de derrière une montagne de bidons d'huile. Vêtu d'une salopette crasseuse, il avait une toute petite tête et des mains énormes noircies par le cambouis. Il brandissait une clé à molette assez grosse pour tuer un éléphant du premier coup. Je me suis appliqué à sourire pour dissimuler ma peur. « Nous venons de la part de Globo, le réparateur, ai-je bredouillé. » Le réservoir de la machine merveilleuse est percé. Elle va bientôt tomber en panne. Il faudrait que vous alliez le remplir. L'affreux bonhomme nous a toisé de toute sa hauteur. « Tu m'as bien regardé » a-t-il grondé. « Je suis Marcel Zongolo, le patron de cette station. Je vends de l'essence. Si tu veux que j'aille faire le plein de la machine, tu dois d'abord me payer. » Mais nous n'avons pas d'argent, ai-je balbutié. Je croyais que vous aviez un accord avec Globo. Je me moque bien de ce que vous a raconté ce damné réparateur. Je suis un honnête commerçant. Mon métier, c'est de vendre du carburant.
Sans argent, pas d'essence.
C'est simple à comprendre, non? Mais le cas est un peu particulier, vous ne croyez pas? Si la machine s'arrête, ce sera la fin du monde. Vous en avez conscience? Je n'ai pas entré dans ces considérations. Je dois rester fidèle à ma règle de conduite. Pas d'argent, pas de carburant. Un point, c'est tout. C'est quand on commence à faire des exceptions que la morale fiche le camp. Pendant près d'une demi-heure, j'ai essayé de discuter avec le garagiste, de l'amener à comprendre qu'il devait faire un geste, qu'il s'agissait de solidarité, que... peine perdue. J'ai fini par me demander s'il avait bien toute sa tête. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi borné. Il repoussait tous mes arguments en répétant « pas d'argent, pas d'essence ». Comme mon insistance l'agaçait, il a commencé à agiter sa clé à molette de façon menaçante. J'ai jugé plus prudent de battre en retraite, car je sentais qu'il allait finir par m'écrabouiller. « Quel crétin !» s'est emporté Poppy. « À cause de lui, le temps va s'arrêter et nous allons être transformés en statues. » J'étais désespérée. De l'autre côté de la route, Zongolo se tenait planté devant la pompe, comme une sentinelle, nous surveillant d'un œil farouche. À ce moment, une voix s'est élevée derrière nous. « Par ici, disait-elle, je suis là, n'ayez pas peur. » Nous nous sommes retournés. Un garçon à peine plus âgé que moi se tenait au milieu des rochers. Malgré les cheveux blancs, une peau de poisson bouilli, il était habillé de vêtements d'une autre époque et portait une épée rouillée au côté. « Je vous salue, gente damoiselle, » a-t-il lancé en s'inclinant. « Je me présente, Ambroise de Sabrecourt, comte de Marmonsol. Je suis tombé dans cette crevasse il y a 3 siècles au cours d'une partie de chasse aux renards. » « Et tu es toujours en vie ?» s'est étonné Poppy. « Oui, grâce à la machine, je vieillis très très lentement, » a répondu Ambroise. « J'avais 12 ans quand j'étais englouti par la caverne. Aujourd'hui, je dois en avoir à peu près 15. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais réussi à trouver le moyen de sortir d'ici. Aujourd'hui que la voûte s'est effondrée, ça semble enfin possible. Mais le monde du dehors a dû terriblement changer, n'est-ce pas ? Cela m'effraie. Oui, ai-je lâché, tu risques d'être pas mal surpris. J'ai entendu ce que vous a dit le garagiste, a repris le jeune comte en haillons. Vous avez bien fait de ne pas insister. C'est un être fruste, violent.
Il a perdu l'esprit à la suite d'un accident.
Un jour, un morceau de stalactite lui est tombé sur le crâne. Depuis, il est la proie d'obsessions contre lesquelles on ne peut rien. Il passe ses journées planté près de sa pompe à attendre qu'une voiture s'arrête pour faire le plein. Mais jamais personne ne vient, car il n'y a pas d'automobile dans la caverne à part le camion-citerne du garage. Je crois qu'il est devenu un peu fou.
Il a complètement oublié qu'on l'avait posté ici pour ravitailler la machine.
Tous vos arguments, toutes vos supplications n'y feront rien. Si vous n'avez pas d'argent, il ne vous délivrera pas une goutte d'essence. De plus, Globo et lui sont irrémédiablement brouillés pour une histoire d'outils prêtés et non rendus.
Alors nous sommes tous fichus, s'est lamenté Poppy.
Pas fatalement, a protesté Ambroise. Il existe peut-être une solution.
Pourquoi n'envisageriez-vous pas de gagner un salaire ?
Tu veux dire que nous pourrions trouver un emploi à l'intérieur de la caverne, ai-je clamé.
Oui, bien sûr. La machine cherche à embaucher des employés qui se chargeraient de nourrir les animaux.
C'est bien payé.
Vous savez sans doute que la machine a développé un programme de protection des bêtes. Elle juge les espèces animales menacées, ce qui l'a poussée à tout faire pour leur rendre la vie plus facile. Je dois avouer qu'elle n'a pas tout à fait tort. Il est vrai qu'au rythme où les humains dévoraient les animaux gambadant dans la caverne, il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'ils disparaissent jusqu'au dernier.
Je sais, ai-je fait. Elle vous a obligé à devenir végétarien.
Effectivement. Bien sûr, ce n'est pas du goût de tout le monde, mais on n'y peut rien.
La machine est toute puissante.
Il est désormais impossible de faire du mal aux bêtes. Elles sont devenues invulnérables. Je savais à quoi il faisait allusion. Je me suis rappelé la biche transformée en pierre sur laquelle Globo s'était acharné en vain. Très poliment, le jeune comte s'est de nouveau incliné en disant « Si vous voulez bien me suivre, je vous conduirai au guichet d'enregistrement qui fera de vous des salariés de la machine. Vous gagnerez ainsi de quoi payer l'essence dont vous avez besoin. » N'ayant rien d'autre à proposer, j'ai décidé de le suivre. En dépit de ses cheveux blancs dus à l'absence de lumière, il était plutôt joli garçon. Et puis ses manières étaient exquises. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un adolescent aussi poli. Nous avons zigzagué dans le labyrinthe des rochers jusqu'à une curieuse cabine métallique recouverte de poussière et de salpêtre, cette moisissure que l'on retrouve sur les murs.
« Madame la machine, » a lancé Ambroise d'une voix cérémonieuse, « je vous amène deux volontaires désireuses de s'occuper des animaux. Pouvez-vous leur proposer quelque emploi bien rémunéré ?»
Aussitôt, la cabine s'est illuminée. Ses parois se sont mises à vibrer, comme si un moteur caché entre ses flancs s'éveillait soudain. Une voix métallique est sortie d'un haut-parleur. « Placez-vous chacune à votre tour devant la caméra, » a-t-elle grésillé. « Déclinez votre nom, votre âge. » J'étais un peu intimidée, mais sans me demander mon avis, Ambroise m'a poussée devant la machine. « Je m'appelle Nouchka, ai-je balbutié. J'ai 12 ans. J'aimerais bien m'occuper des animaux. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. En fait, j'ai gardé le chien d'une voisine une fois et je l'ai brossé, mais il n'a pas aimé ça. Et il m'a un peu mordu, mais... »
Très bien, a nasillé le haut-parleur. Vous êtes engagé.
Combien voulez-vous être payé ?
Je ne sais pas. 10 millions ?
« Accordé !» a fait la machine, comme si mes prétentions n'avaient rien d'extraordinaire. « Vous serez affecté à l'élevage des poulets. Dans une semaine, vous pourrez vous présenter ici pour toucher votre salaire, qui vous sera délivré sous forme de pièces d'or. »
« Personne suivante. »
« 10 millions par semaine pour nourrir des poulets ? Je n'en revenais pas. »
Poppy a pris ma place. « Je m'appelle Poppy, » a-t-elle lancé. J'ai une très grande expérience des animaux. J'ai élevé des lions au biberon et des gorilles aussi. Et puis j'ai dressé des panthères dans un cirque. J'ai également enseigné à des éléphants comment faire du vélo.
je voudrais être payé 100 millions par semaine. » Elle mentait. Elle n'avait jamais rien fait de tout ça. C'était juste si, quand elle était petite, elle avait eu un poisson rouge, qui était mort au bout de 10 jours parce qu'elle ne s'en occupait pas. « Accordé, a fait la machine. Vous serez également affecté à l'élevage des poulets. Dans une semaine, vous pourrez vous présenter ici pour toucher votre salaire, qui vous sera délivré sous forme de pièces d'or. » Personne suivante. J'en étais sur le derrière. 100 millions. Hé hé, a ricané Poppy en m'envoyant un coup de coude. Faut savoir se montrer maligne. J'en crevais de jalousie. Voilà qui est bien, a déclaré Ambroise. Je n'ai plus qu'à vous montrer où se trouve l'élevage. Il vous suffira d'y travailler une semaine pour réunir de quoi payer l'affreux Ongolo. J'espère que vous n'êtes pas trop délicate, car cet élevage de poulets dégage une épouvantable puanteur. C'est pourquoi personne ne veut y travailler. J'aurais peut-être dû vous en avertir. Ce n'est pas grave, ai-je soupiré. L'important, c'est que nous puissions payer l'essence dont la machine a besoin. En tout cas, merci de nous avoir indiqué ce moyen. Sans toi, nous serions dans une belle mélasse. Bah, c'est peu de chose, a répondu gentiment Ambroise. En échange, vous n'aurez qu'à me parler du monde d'en haut. Me dire ce qui a changé afin que je ne sois pas trop décontenancé lorsque j'y retournerai. Le pauvre, il n'était pas au bout de ses peines. Je n'ai rien dit pour ne pas le désespérer. Brusquement, une horrible odeur nous a submergés et je me suis bouché le nez. Devant nous s'étendait une grande enclave grillagée où s'ébattaient des centaines de poulets courant en tous sens. À cause de l'absence de lumière, leur plumage était uniformément blanc. Ils pataugeaient dans la fiente en caquetant comme des diables. « J'aurais dû demander 200 millions !» a gémi Poppy les yeux écarquillés. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai poussé la porte de la basse-cour. Pourquoi perdre du temps à se lamenter puisqu'il n'y avait pas d'autre solution, hein? Dans une cabane, j'ai trouvé des blouses de fermière, des bottes de caoutchouc, ainsi que des tonneaux de nourriture séchée. Des granulés de champignons, a expliqué Ambroise avec une grimace d'excuse. Vous devrez, hélas, manger la même chose que les volailles. J'espère que vous aimez ça. Il fallait se mettre au travail car les poulets avaient faim et montaient déjà à l'assaut de la baraque. J'ai enfilé les bottes, la blouse, rempli une cuvette de granulés et je suis partie à leur rencontre. L'odeur était atroce et j'ai bien cru que j'allais m'évanouir. Mes pieds faisaient splotch splotch dans la fiente fraîche. Le bonheur, quoi? Bon, je vous passe les détails, ça vous couperait l'appétit pendant 10 jours. Poppy ne prenait pas la chose avec la même sagesse. D'autant que les poulets impatients nous picoraient les mollets chaque fois qu'ils voulaient manger. C'est-à-dire presque tout le temps. Ambroise, lui, s'était assis sur un rocher, à l'écart, et observait nos efforts d'un œil indulgent. Lorsque les poulets nous laissaient en paix, nous allions le rejoindre pour lui parler du monde d'en haut, comme il le souhaitait. Nous y allions doucement, car le pauvre en était resté aux années 1700. C'est dire qu'il lui fallait un bon nombre de cours de rattrapage.